parole de paix sur RCN, Stéphane Tabourin.
Dans un contexte mondial de guerres multiples et de crises climatiques majeures, et alors que nous nous enfonçons dans une société de plus en plus autoritaire, de surveillance, de contrôle et de violence, Parole de Paix vous propose un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion. Les associations qui font partie du collectif échangent autour des conditions nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi sur des conflits, des guerres et leur préparation. Des sujets que nous discutons et que nous voulons partager avec les auditeurs et auditrices parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. Cette semaine, nous allons parler des armes nucléaires sur l'émission Parole de Paix et nous sommes avec plusieurs organisations du collectif. Marie-Josée, bonjour Marie-Josée.
Bonjour à tous.
Marie-Josée d'Amnesty International. Nous avons également Élise, bonjour Élise.
Bonjour.
Non, Élise, toi tu es du MAN, Mouvement pour une alternative non violente, et dans d'autres, et tu es aussi membre de la Croix-Rouge, je crois. Et
oui, absolument.
Je dis ça parce que j'utilise le terme Croix-Rouge, parce que notre invité est responsable à la Croix-Rouge, responsable nationale. On en parle dans une seconde. Nous avons aussi autour des micros Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous.
De la Ligue des droits de l'homme de Nancy, LDH. Et notre invitée cette semaine, c'est Caroline Brandao de la Croix-Rouge française. Tu es responsable en droit, sur le droit international humanitaire. C'est ça ?
Et oui, c'est ça. Bonjour Stéphane.
Bonjour Caroline. Donc effectivement, dans cette émission, nous allons la consacrer aux armes nucléaires, une menace intolérable pour l'humanité. Et cette émission fait suite à une conférence qui a eu lieu à Nancy, mardi 20 février, à la MJC Pichon. Pour suivre les traditions, on commence par quelques brèves. Allons-y les uns les autres. On avait dit qu'on commençait par une brève proposée par l'ASPS, l'Association de solidarité avec le peuple sahraoui. Donc cette association qui fait partie du collectif de notre collectif nous informe qu'un voyage va avoir lieu au Sahara occidental à la fin du mois de février. Qu'est-ce qu'il nous dit notre ami Philippe ? Il nous dit un groupe de 5 voyageurs de l'ASPS s'envole le lundi 26 février pour les camps de réfugiés à Tindouf. Ils participeront aux festivités de la fête nationale qui auront lieu le 27 février. Donc le 27 février, je l'apprends tout comme vous, c'est la fête nationale du peuple sahraoui. On rappelle que c'est un peuple qui est un peu sur le même modèle que ce qui se passe en Israël, qui a été lui complètement éliminé de son territoire qui a été annexé par le Maroc, donc qui est le sud du Maroc, c'est le territoire des Sahraouis, qui a un gouvernement en exil et qui est réfugié dans des camps au sud de l'Algérie. Donc ces 5 voyageurs de l'ASPS qui se rendront à Tindouf vont suivre les missions qu'ils ont suivies précédemment et ils nous rendront compte à l'antenne quand ils reviendront de leur voyage. Donc voilà pour l'ASPS. On avait une information en France, qui est plutôt aussi internationale, sur le cas de Julian Assange. Donc Marie-Jo, Julian Assange, est-ce que tu peux nous rappeler qui est Julian Assange ?
Oui, volontiers. Je te rappelle que tu voulais parler de la manifestation qui va avoir lieu.
Je le mets en 4.
Pardon, excuse-moi, j'ai cru que c'était en 2.
Voilà.
Donc c'est à moi de parler. Donc moi je représente Amnesty International. Et donc aujourd'hui je voulais vous parler brièvement, même si ça mériterait un développement plus important, de Julian Assange. Alors c'est quelqu'un qui a été un peu oublié, qui a été très médiatisé en 2010, quand il a fait paraître dans WikiLeaks, des documents sur l'armée américaine et qui mettaient en évidence des violations des droits humains commis par cette armée américaine. Et presque, avec possibilité que ce soit presque des crimes de guerre, que cette cette armée américaine avait commis en Irak, Iran et en Afghanistan.
Je me suis trompée.
Heureusement qu'il me corrige. Excusez-moi, je me suis trompée. C'est donc en Irak et en Afghanistan. Donc, il s'était, à la publication de ça, il s'était réfugié en Suède, etc. Et il était resté reclus pendant 7 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Puis, il avait été emprisonné par Londres, par le Royaume-Uni. Et il est depuis 2019 dans une prison de haute sécurité, au Royaume-Uni. Le 20 et le 21 février 2024, il joue son dernier atout pour éviter le recours, il a fait un recours pour ne pas être extradé aux États-Unis, où là, il risque 175 ans de prison, plus un régime pénitentiaire très, très difficile. Donc, Julian Assange, son cas, est médiatisé en ce moment par plusieurs manifestations dans des villes de France et d'ailleurs, parce que son combat pour montrer les violations des droits humains est un combat pour que le journalisme d'investigation soit promu et soit protégé. Alors que lui, pour avoir, ça fait 14 ans, qu'il est emprisonné, qu'il vit difficilement. Et même si sa personnalité est par certains très controversée, eh bien c'est quelqu'un qui a eu le mérite de mettre en évidence et de lutter pour la liberté d'expression. Et donc Amnesty, qui lutte pour cette liberté d'expression partout dans le monde, eh bien s'engage, essaye de le défendre et demande à ce que ses poursuites soient abandonnées et que, alors par les Américains, et demande aux autorités anglaises, enfin du Royaume-Uni, de ne pas l'extrader et de le remettre immédiatement en liberté. J'espère que j'ai pas trop.
Et la France peut aussi faire quelque chose. On pourrait aussi lui accorder l'asile politique. C'est une des choses qui sont demandées par les comités Julian Assange en France. Et tu disais donc là, c'était quel jour ?
C'était le mardi 20 et mercredi 21.
Et il y a eu des manifestations dans plusieurs endroits en France.
En Lorraine, c'était à Metz.
Tu voulais rajouter quelque chose, Catherine ?
Que la LDH, bien sûr, s'est associée aux différentes associations qui défendaient et qui soutiennent Julian Assange. Donc il y a une tribune qui a été publiée sur Mediapart, mais qui associe à Julian Assange Navalny, puisque lui aussi, il a voulu dénoncer des graves entorses aux droits humains, et Edward Snowden. Et on voit que c'est un imbroglio, c'est-à-dire que les États, par exemple les États-Unis, ont été le premier pays à protéger les journalistes et les lanceurs d'alerte. Mais là, ça ne les arrange pas, donc ils le poursuivent. La Russie a accueilli et a donné l'asile à Snowden, lanceur d'alerte lui aussi. Mais ce qu'a dit Navalny sur leur pays, ça ne les arrange pas, donc on l'élimine. Donc je pense que ce serait très intéressant de faire une émission sur les lanceurs d'alerte et les deux poids, deux mesures, les intérêts, suivant les intérêts en jeu.
Les indignations à géométrie variable et qui on décide de nos gouvernements et nos médias mettent en avant et comment ils traitent ce sujet. C'est des sujets pour la démocratie et pour tout le monde de pouvoir parler, de pouvoir que les journalistes puissent être libres et dénoncer les atteintes aux droits de l'homme.
Et dans la tribune publiée sur Mediapart, bon, je vous invite à la lire. Il est quand même dit que bah, c'est bien beau de dénoncer ce que certains pays font, mais il faudrait peut-être quand même agir.
C'est ça, agir. À ce propos d'agir, la Ligue des droits de l'homme, je crois qu'elle agit, elle agit contre le racisme et notamment contre le racisme du Rassemblement national, parce que il faut rappeler que c'est une organisation, un parti politique raciste dès sa création. Donc la LDH, j'apprends qu'elle porte plainte contre un député du Rassemblement national. Et quel est ce député qui...
Oui, il s'appelle Jocelyn Decigny. Donc, lors d'une cérémonie des vœux, il a à nouveau tenu des propos indignes. C'est pas la première fois, il avait déjà été rappelé à l'ordre à l'Assemblée. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Alors qu'il évoquait l'insécurité dans le département de l'Aisne, il a déclaré, je cite, « Chaque fois, j'ai dénoncé et condamné ces crimes et ces agressions. » Je fais le lien entre ces crimes et l'augmentation de la population subsaharienne qui nous vient d'Île-de-France. Il a dit d'autres choses, je passe et je continue. Allons-nous rester les bras croisés devant ce problème? Bon, et donc, la Ligue des droits de l'homme porte plainte pour ces propos donc, xénophobes et racistes, hein, et qui assimilent immigration et délinquance. Et elle rappelle, donc avec fermeté, que le racisme n'est pas une opinion, mais que c'est un délit. C'est pour ça qu'elle porte plainte.
Voilà. Tout à fait. Ouais. Et je terminerai par une dernière. On terminera donc, si vous voulez bien. On est en retard, il faut qu'on avance. Vas-y,
Juste une chose, je ne peux pas m'empêcher de le dire. On peut signaler quand même que le Rassemblement national sera présent à la panthéonisation de Manoukian, qui a fait partie des brigades du MOI, qui a lutté contre le régime nazi et qui a été fusillé avec 23 autres personnes communistes. Et donc le Rassemblement national sera présent à cette...
Oui, en ce moment, on a vu que le Rassemblement national essaye de se payer une belle image et il faut rappeler...
Et je trouve ça scandaleux.
Voilà.
Donc je me permets de... C'était pas prévu, mais voilà.
Allez. Je donne une dernière brève de l'association France-Palestine Solidarité. Alain ne peut pas être avec nous aujourd'hui, Alain ou Brigitte. Et donc dire que le samedi 2 mars à 14h, place des Vosges, de la place des Vosges jusqu'à la préfecture, il y a une nouvelle manifestation Gaza, 4 mois d'horreur, stop génocide, cessez le feu immédiat. Il s'agit de réclamer des actes concrets au gouvernement de la France et à sa représentante de Meurthe-et-Moselle, donc la préfète, pour imposer à Israël un cessez le feu et la reconnaissance de l'existence d'un État palestinien. Donc on appelle, l'AFPS appelle tous les amis de la Palestine, tous les amis du droit, tous les amis de la paix, à manifester le 2 mars, 14h, le rendez-vous. C'est Place des Vosges à 14h. Place des Vosges, c'est un nouvel endroit pour une manifestation d'enseigne. 14h, samedi 2 mars, Place des Vosges. On est en retard, on a quelques minutes de retard, mais pas trop. Je propose qu'on écoute la musique qui va faire le lien avec le dossier. On écoute Orchestral Manoeuvre in the Dark. La chanson s'appelle Enola Gay, ça date des années 80. C'est parti.
RCN, parole de paix, Stéphane Tabourin.
On vient d'écouter Orchestral Manoeuvre in the Dark, Enola Gay. On va après expliquer pourquoi cette chanson. Ce n'est pas un clin d'œil à Miguel et les années 80, une autre émission de RCN, mais je pense qu'il apprécie, il apprécierait le clin d'œil. On a décidé de faire de cette émission une émission qui va parler des armes nucléaires, une menace intolérable pour l'humanité. Élise, pourquoi on a choisi ce sujet et une invitée de prestige comme Caroline?
Alors, c'était le 20,
le 20 février,
février dernier. Donc, à la MJC Pichon, il y avait une conférence sur les armes nucléaires. Une menace intolérable pour l'humanité. On avait décidé de faire intervenir Abraham Béard, le président de l'Association des médecins français pour la prévention de la guerre nucléaire, et donc Caroline Brandao à la Croix-Rouge, responsable du droit international humanitaire. Donc on avait envie d'informer nos citoyens, nos concitoyens, nos concitoyennes sur les dangers de ces armes. Donc, Caroline, est-ce que vous pouvez rappeler un peu en quoi les armes nucléaires sont une menace intolérable pour l'humanité ?
Oui, effectivement. Alors, c'est un sujet important dont on parle peu. Et puis, pour faire référence à l'extrait qu'on a écouté d'Enola Gay, c'est important de rappeler qu'Enola Gay, justement, c'était le nom de l'avion qui a largué à Hiroshima à 8h15 du matin. La bombe qui s'appelle Little Boy. Et la chanson fait référence à cet horaire, 8h15, au nom de la bombe, Enola Gay, et à Little Boy qui va larguer donc, sur Hiroshima. Il y a une allusion aussi à Madame Tibet. Dans la chanson. Donc, ce qui est un peu contradictoire, c'est que beaucoup de personnes vont danser sur cette chanson en 1980, mais ignorent complètement le message du groupe derrière. Et Madame Tibet, c'est la mère du pilote qui va avoir un rôle important. Il y a quelques anecdotes qui sont racontées, qui fait allusion au colonel Tibet, qui va piloter. Donc cet avion est largué. Il fera quelques années après une reconstitution du bombardement d'Hiroshima. Et il présentera ses excuses, notamment dans une émission de TF1. Qui était animé à l'époque par Yves Mourouzi, tout en maintenant quand même sa position, en disant « Je ne regrette pas ce que j'ai fait ». Et il avait serré la main d'une religieuse japonaise.
Alors, on rappelle peut-être pour les plus jeunes que Hiroshima quelques jours après Nagasaki, ça a été l'envoi sur des êtres humains de la bombe atomique. Et ça a été désastreux au niveau humain. Il y a eu des milliers de morts et des milliers de morts sur le moment, comme vous le disiez, moi, à la conférence vous le rappeliez, des milliers de morts sur le moment quand une bombe nucléaire est larguée, et plus après plein de conséquences et des morts sur les semaines et les mois qui suivent, et les années même.
Oui, c'est 340 000 personnes qui vont mourir immédiatement, et c'est des générations entières qui vont être atteintes de leucémie, de cancer. Puisque cette arme qui est vraiment particulière, qui est particulièrement destructrice, et on va le voir après, qui viole un certain nombre de règles du droit applicable en situation de conflit armé, va avoir des effets sur l'ADN qui vont être transformés.
Donc sur le corps
sur
humain.
Sur le corps humain. Ouais. Et les survivants, qu'on appelle les Ibakucha, vont témoigner puisqu'ils ont survécu à l'arme nucléaire. Et ces personnes vont apporter beaucoup de témoignages qui expliquent que finalement, l'arme nucléaire, on en meurt trois fois. La première fois, c'est cette explosion qui est provoquée, qui brûle les personnes, qui vont mourir dans des souffrances inutiles, dans ce qu'on appelle, en droit international humanitaire, c'est l'interdiction de violer les mots superflus, c'est-à-dire c'est une arme qui va provoquer des souffrances inutiles. On meurt de manière abominable. La deuxième, c'est ce nuage qui va asphyxier la population. Et puis, la troisième, c'est cet effet sur les générations, mais aussi sur l'environnement, sur l'eau, sur la faune et la flore, qui a des conséquences encore aujourd'hui sur les générations d'après.
Oui, parce qu'on a des gouvernements qui font passer l'idée que c'est bien d'avoir la bombe nucléaire, c'est bien d'avoir l'arme atomique. Bon, ils nous disent que c'est bien pour que quelques-uns l'aient, mais pas tout le monde, parce que quand même, ça serait peut-être dangereux. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que pour beaucoup de monde, c'est assez édulcoré et on parle peu que c'est un drame, c'est terrifiant. Je me rappelle pas, mais on cite souvent Albert Camus qui avait écrit le lendemain de la première bombe, alors que certains parlent de façon neutre et froide du progrès technique dans la guerre qu'est l'arme nucléaire, et lui disait c'est effroyable. Le mot c'était la civilisation. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie, et dans son article dans le journal Combat en 1945, il met devant des perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Donc Parole de paix apprécie particulièrement ces paroles, la paix est le seul combat qui vaille d'être mené, ce n'est plus une prière. Mais, alors, c'est là que c'est important et qui fait lien avec votre travail à vous, c'est un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernants. L'ordre de choisir définitivement entre l'enfer ou la raison. Ça, c'était les paroles d'Albert Camus, prix Nobel de littérature, dans son journal qui s'appelait Combat. Et donc, la Croix-Rouge... Là aussi, est-ce que les gens connaissent bien ce que fait la Croix-Rouge ? Quel est son lien avec cette question précise ? Mais fait aussi, moi j'ai l'impression que la Croix-Rouge est plus connue sur le volant de la sécurité civile. On les voit sur la formation. Hein, la Croix-Rouge forme les gens aux premiers secours. On voit aussi à la télévision la Croix-Rouge qui intervient sur là où il y a des catastrophes humanitaires naturelles, mais aussi pas moins naturelles. Et là, moi j'ai découvert lors de la conférence l'implication de cette organisation mondialement connue, la Croix-Rouge internationale, pour dire, eh ben, les armes nucléaires, c'est une menace intolérable. La Croix-Rouge n'en veut pas non plus.
Excusez-moi, mais vous l'avez peut-être dit, mais c'était en quelle année Hiroshima ?
1945.
Oui, fin de deuxième guerre.
D'accord, vous l'avez peut-être dit, mais j'avais pas mémorisé.
Non, on l'avait pas mis.
C'est Stéphane qui l'a dit.
Ouais.
J'ai pas mémorisé, pardon.
Alors, donc, la Croix-Rouge, je demandais sur...
Alors justement, depuis 1945, l'un des premiers témoins, c'est la Croix-Rouge japonaise, qui était présente sur place, qui avait d'ailleurs un hôpital à Hiroshima qui n'a pas été détruit. Et on ne l'explique pas hein, d'ailleurs, puisque c'était quand même assez proche de l'épicentre. Et la Croix-Rouge japonaise, donc parmi les médecins qui restent, il en reste peu, parmi les infirmiers, parmi les soignants, il en reste très peu, très vite, elle va essayer de mettre en place une action de secours. Mais c'est impossible. C'est impossible, et ça, il faut bien le comprendre, et on va le dire et le rabâcher. Il est impossible de mener une quelconque action de secourisme, d'aide humanitaire, dans ces circonstances-là. Parce que il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'infirmiers, il n'est pas possible de la mettre en œuvre. Donc, dès 1945, la Croix-Rouge japonaise et le comité international de la Croix-Rouge qui va envoyer une personne qui est très connue au Japon, qui est très connue à Hiroshima puisqu'il y a une statue en son nom, mais qui est peu connue en Europe, qui n'est pas connue à Genève. Et pourtant, c'est un médecin qui s'appelle le docteur Marcel Junot, va arriver sur place. Ça va être le premier à envoyer des télégrammes et à alerter la communauté internationale en disant « mais plus jamais ça, il faut faire interdire cette arme parce qu'on est incapable de mener une action de secours ». Et c'est ce qu'il va défendre et c'est ce que la Croix-Rouge va apporter tout au long de son histoire et encore aujourd'hui, de rappeler « attention, les conséquences humanitaires d'utiliser l'arme nucléaire sont catastrophiques, on ne pourra rien faire, donc il faut faire interdire cette arme ».
Oui, et C'est effectivement quelque chose de terrifiant et il est important de le rappeler que c'est une, dans la conférence, un intervenant a dit, c'est un peu l'être humain qui a inventé cette, qui a réussi à inventer cette arme, donc qui a inventé l'enfer sur Terre, c'est un peu, il parlait du mythe de Prométhée, c'est-à-dire le mythe du feu. Et là, mais là, c'est un feu qu'on ne sait pas éteindre. Et c'est terrifiant. Et ça passe dans les télévisions, dans les radios, dans les comme quoi c'est bien d'avoir l'arme nucléaire. Non, il faut que les gens comprennent que c'est l'apocalypse, l'arme nucléaire, et que c'est en plus dans l'histoire récente, moins récente depuis cette invention, plusieurs fois l'humanité est passée à un cheveu d'accident nucléaire ou de guerre nucléaire pour suite à des erreurs. Le nucléaire, l'arme nucléaire est terrifiante et comme tu viens de le dire avec la Croix-Rouge, il faut interdire ces armes nucléaires. Les gens comprennent que les armes biologiques, les armes chimiques c'était dangereux, mais l'arme nucléaire c'est pire que tout. C'est pire. Voilà. Je sais pas s'il y a un podium sur les armes, mais dans la conférence, le docteur Béard et toi, vous expliquiez que dans l'histoire des nations internationales, il y avait des combats qui étaient menés pour faire interdire ces armes affreuses. Donc on parlait d'armes chimiques, d'armes bactériologiques, même on se rappelle les plus anciens, enfin pas les plus anciens, mais il y a eu des combats contre les mines antipersonnelles, les armes à sous-munitions, et il faut mener un combat contre l'arme nucléaire.
Mais le...
Vas-y Catherine.
Le principal problème, c'est quand même les radiations.
Oui, oui.
Parce que entre la destruction à Hiroshima et la destruction dans la bande de Gaza, le résultat est le même. S'il peut pas y avoir de secours, c'est à cause.
Oui.
C'est parce qu'on ne peut pas se protéger contre les radiations.
Oui, le docteur Béard parlait de parce que eux, donc l'Association des médecins français pour la prévention des guerres nucléaires travaille sur cette question-là du côté médical et oui, il parlait surtout de toutes les maladies induites, les radio-induites et tout ce qui était. Caroline vient de nous dire que ça touche nos cellules, ça touche les cellules des personnes. Oui. Alors il disait lors de la conférence, c'était les deux disaient que c'était en plus des conséquences imprévues, parce que comme elle vient de le dire, tiens, pourquoi le bâtiment de la Croix-Rouge, de l'hôpital de la Croix-Rouge à Hiroshima,
c'est ça,
n'est pas tombé alors qu'un autre, que toute la ville était rasée? Pourquoi des gens développent tout de suite des cancers, ceux qui sont même assez loin, parce que ceux qui sont sur place, c'est réglé, c'est au niveau des radiations, de la chaleur, hein, il parlait aussi de la chaleur.
Du souffle.
Et donc, est-ce que Caroline, toi, tu es juriste. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce chemin de juriste qui est fait pour travailler à l'interdiction de ces armes affreuses?
Oui, mais je poserais bien une question.
Vas-y,
il me semblait que l'utilisation d'armes qui ne permettent pas de cibler les populations, c'est-à-dire qui font une destruction totale, était de toute façon interdite.
Oui, vous avez raison de le mentionner. Alors, oui. Il y a effectivement le cadre juridique qui est posé par le droit international humanitaire. Donc, ce droit qui est quand même spécifique, on va le rappeler aux auditeurs, c'est un droit qui est applicable uniquement en situation de conflit armé, en situation de guerre. Et ce droit, effectivement, comme vous venez de le mentionner, il a deux objectifs. Il protège des personnes qui ne combattent pas, déjà. Donc, c'est-à-dire le personnel humanitaire, les civils... Les femmes, les enfants, les personnes vulnérables sont protégées par ce droit. Il protège également les personnes qui ne combattent plus. Donc un combattant blessé est mis hors de combat, il est protégé. Une personne qui est détenue est aussi protégée par ce droit. Et l'autre objectif, c'est de limiter les moyens et méthodes de combat. Donc c'est un droit qui va venir encadrer la conduite des hostilités, c'est-à-dire la manière de faire la guerre. Certaines armes, on va le voir, sont interdites et certaines méthodes de combat sont interdites. Donc effectivement, une arme qui ne respecte pas un certain nombre de principes, qui vise des civils, qui vise la population civile, des résidences civiles, des maternités, des hôpitaux, Eh bien, c'est une arme qui ne respecte pas un des principes qui s'appelle principe de distinction. On doit toujours faire la distinction entre des objectifs militaires et des objectifs civils. Si on ne le fait pas, ça peut être constitutif d'un crime de guerre. Alors là, en l'occurrence, l'arme nucléaire, elle ne fait aucune distinction. Et puis pire encore, on a le principe de proportionnalité dans l'attaque. Donc on doit, notamment les combattants, mettre en place des attaques par rapport à un armement et un objectif militaire qui ne doit pas être disproportionné. Donc il ne doit pas y avoir des effets en cascade de l'arme qu'on va utiliser. On doit atteindre un objectif militaire précis, concret et attendu. Et dans ce cadre, alors là, l'arme nucléaire, on est complètement dans cette disproportion dans le temps sur les personnes. C'est très important de rappeler que pour Hiroshima et Nagasaki, soit pour les générations à venir, pour les habitations, les radiations vont persister des années après. Et ça, les Hibakusha le mentionnent très bien dans leur témoignage. Donc on a ce cadre général déjà qui n'est pas respecté. Donc en soi, c'est contraire au droit international humanitaire. Et puis Stéphane, vous l'avez mentionné, il existe un certain nombre de traités qui vont venir interdire les armes. Ça fait partie de la construction du droit international humanitaire. Donc on a des conventions très tôt qui viennent interdire, par exemple, les armes biologiques. On est en 1972. On a des conventions qui vont interdire les armes bactériologiques, chimiques. Et puis, on va avoir des conventions qui interdisent les mines antipersonnelles. La convention d'Ottawa en 1997, la convention d'Oslo en 2008 sur les bombes à sous-munitions. Tout ça va dans le sens de renforcer le droit international humanitaire pour dire qu'il y a des armes qui ne respectent pas un certain nombre de principes, donc on doit les interdire. Et quand on regarde le cheminement, la construction par rapport aux armes nucléaires, donc on a un traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, on est en 1968. On a un traité d'interdiction complète des essais nucléaires en 1996. Et on arrive à un traité interdisant les armes nucléaires en 2017 et qui rentrera ensuite en vigueur en 2021. Donc on voit cette avancée, cette construction. Après, on va le mentionner. C'est important de rappeler que le droit international humanitaire est fait par les États, pour les États. Donc il faut imaginer que ces États se mettent autour de la table pour adopter des règles. Mais qu'il n'existe pas de puissance au-dessus de ces États qui ne voudraient pas accepter un certain nombre de règles. Et c'est le cas des puissances nucléaires qui ne veulent pas adopter le traité interdisant l'arme nucléaire.
Mais les États nucléaires qui ont l'arme atomique... au sortir de après la Seconde Guerre mondiale, j'ai l'impression que le traité qui respecte le plus ou qui souhaite faire respecter par les autres, c'est le TNP, donc qui interdit aux autres pays de se doter de la bombe nucléaire, alors que c'est si bien pour eux, mais il ne faut pas que ça soit pour les autres, parce que en réalité, on est tous d'accord que si tous les pays du monde avaient l'arme nucléaire, dans les médias, on nous parle souvent de l'affreux Iran qui veut avoir l'arme nucléaire, et effectivement, c'est pas bien. Mais après, on est dans l'arbitraire le plus complet, c'est les 5, au départ c'était les 5, maintenant on sait que Israël a aussi l'arme nucléaire, certains pays l'ont de façon illégale. On avait aussi déjà dit dans cette émission qu'il y avait des pays qui avaient renoncé à l'arme nucléaire. L'Afrique du Sud, par exemple, a eu les bombes nucléaires et à un moment on fait le choix de dire on n'en veut plus. Et les 5 grandes puissances que sont la Russie, je crois le premier c'est les États-Unis quand même qui ont le plus d'armes nucléaires, la Russie, la France, l'Angleterre, je ne sais plus qui est le cinquième, mais eux... Ils disent aux autres États de ne pas avoir d'armes nucléaires parce que c'est contraire au traité de non-prolifération. Par contre, ils violent ce même traité parce que ils rénovent, ils remettent de l'argent. On a un président en France qui dit qu'il faut réarmer la France, qu'il faut réarmer sur le nucléaire également. Et là, le parc nucléaire français militaire va aussi être rénové en permanence d'ailleurs, et c'est contraire au traité. Mais comme tu viens de le dire, les traités n'engagent que ceux qui y croient. Non, mais les traités, il y a un essai au niveau international, et c'est sur ça qu'il faut qu'on s'appuie sur l'ONU, sur l'Organisation des Nations Unies, et avec des grandes organisations et des gens qui poussent pour faire interdire un certain nombre de choses. On vous rappeliez pendant la conférence que notamment il y a eu un gros battage médiatique sur les
mines antipersonnel.
Bah oui, et en France on se rappelle avec l'association Handicap International. Mm-hmm. Qui faisait ces actions.
Des pyramides de chaussures.
Avec des pyramides de chaussures.
Des montagnes de chaussures. Et il faut. Donc, cette émission, modestement, il participe. Il faut que les gens se lèvent. Il faut que les grosses organisations. Je crois que pour le traité d'interdiction des armes nucléaires, Amnesty est aussi dedans pour bannir les armes nucléaires. Les grandes organisations. Mais il faut que les gens. Les personnes, tout un chacun, soient bien convaincus et poussent pour faire que nos gouvernements changent. Et en France, on est dans un pays qui a l'arme nucléaire. Donc, problème. Comment la France, tu viens de rappeler qu'il y a eu le dernier traité, c'est le TIAN, traité d'interdiction des armes nucléaires, qui a été adopté par 122 pays dans le monde. Hein, 122 pays, il y a combien? Il y a 190 pays dans
c'est
le monde
pas
à peu près.
257.
Je crois
non, 197, je crois.
Ouais, 196.
196 pays. Il y a 196 pays dans le monde. Il y a 122 pays qui ont fait adopter le traité international, le traité d'interdiction des armes nucléaires en juillet 2017. Et tu l'as dit rapidement, mais c'est entré en vigueur, ce traité est entré en vigueur le 22 janvier 2021. Parce que plus de 50 pays l'avaient signé. Donc les traités ne marchent que si les pays signent le traité d'interdiction des armes nucléaires. Et en France, un collectif comme le nôtre, Élise, non, Amnesty aussi est dedans, le traité, on est un collectif pour le désarmement nucléaire, et on fait des actions pour pousser, à notre modeste niveau à Nancy, pour faire connaître ce traité. Il faut faire connaître à tout le monde ce traité d'interdiction des armes nucléaires, et il faudrait que la France signe. Mais tu disais même à la conférence, au moins qu'elle participe aux réunions. Parce que la France, le rôle de la France sur les armes nucléaires, c'est de jouer la politique de la chaise vide, de ne pas venir.
Alors effectivement, dans la construction du droit, on le rappelle, il y a d'abord on signe, on discute sur un traité, sur des règles, on s'accorde. Ensuite on signe et ensuite on ratifie, c'est-à-dire vraiment on accepte dans notre droit français, en droit interne, de transposer, de mettre en œuvre une convention ou un traité. Ça c'est un élément voilà, juridique, un petit peu par étape de construction. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler qu'on a ce traité qui vise à interdire l'arme nucléaire. Mais même sans ce traité, au regard du droit international humanitaire, des conventions de Genève de 1949, il y a un certain nombre de principes qui sont quand même assez clairs pour dire si demain l'arme nucléaire est utilisée, c'est contraire au droit international humanitaire. Donc il y a le rôle des États et il y a le rôle effectivement de chacun des citoyens, de créer peut-être des espaces de dialogue, de compréhension du sujet, parce que peut-être aussi pour les nouvelles générations, les questions d'Hiroshima, Nagasaki, qu'est-ce que l'arme nucléaire ? On en parle moins, on en parle peut-être sous un angle qui est très axé sur la dissuasion nucléaire, mais expliquer également que parler de dissuasion nucléaire, c'est donc accepter quelque part qu'on viole le droit international humanitaire. Donc ça, c'est un élément important. Il y a une rhétorique également de l'arme nucléaire qui revient dans l'actualité sur le conflit armé en Ukraine avec la centrale nucléaire de Zaporijjia. Il faut aussi rappeler que c'est interdit d'occuper une centrale nucléaire. Ce n'est pas un objectif militaire. Ça ne peut pas l'être. C'est bien spécifié dans le droit international humanitaire. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas occuper une centrale nucléaire puisque ça représente une force dangereuse, telle qu'un barrage, telle qu'une centrale électrique, c'est interdit de les utiliser. Et dans les discours, il y a une menace qui plane d'utiliser, de menacer, d'intimider cette arme
Poutine
nucléaire.
Poutine l'a fait clairement. Poutine a clairement dit qu'il pouvait s'attaquer à la
Kim Jong...
Autour
Je sais pas.
En Corée du Nord.
Il y a aussi Gaza.
Oui.
Le ministre de la Défense israélien qui a dit que on réglerait vite le problème si on envoyait une bombe atomique.
Terrifiant, ça, ouais. Ils proposaient d'envoyer une bombe nucléaire. Oui, tu as raison, Élise.
Oui, absolument.
Les gens puissent tenir des propos de la sorte, c'est vraiment totalement effrayant.
Pour moi, un problème général, c'est que des pays ont signé des traités, les ont ratifiés, ils ne les appliquent pas et personne ne peut sanctionner. Personne n'a les moyens de dire vous avez violé. Personne n'a dit à la Russie Zaporijjia, c'était interdit, donc sanctions supplémentaires. Quoi, c'est...
Là, on touche.
Je repensais à la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme. La France, elle la viole en permanence. Au mieux, on lui dit « Ah, c'est pas bien ».
Mais c'est parce que c'est peut-être que l'humanité ne met pas suffisamment et les moyens, et les... parce qu'on les aurait. Mais pour l'instant, on est dans l'ordre du symbolique. Quand la Russie a lancé sa guerre contre l'Ukraine, on a mis des petites sanctions. On pourrait mettre des énormes sanctions. Si la communauté internationale était un peu soudée sur ses valeurs, sur ses conventions, sur ce travail juridique, et s'il n'y avait pas beaucoup d'hypocrisie derrière, la guerre, c'est aussi un marché, c'est aussi beaucoup d'argent, dans une certaine mesure, y a des promoteurs de la guerre, il y a des profiteurs de guerre. Et y compris des profiteurs de la bombe nucléaire, à savoir aussi que nos propres banques, elles investissent de l'argent, elles financent des objets qui sont interdits au regard du droit international. Et ça aussi, si on leur fait pas remarquer, si les citoyens ne se lèvent pas pour leur dire, mais je ne veux pas qu'avec mon argent que vous faites travailler dans votre banque, que vous soyez la BPL, le Crédit Agricole, BNP, il y a un certain nombre de banques françaises qui mettent de l'argent pour continuer à améliorer les armes nucléaires. Et ça, c'est vrai que c'est pas l'État qui leur dit, c'est pas notre gouvernement qui leur dit, mais on n'a pas le droit de faire ça. Et donc, il faut que ce soit les citoyens qui s'en chargent, qui agissent et qui rejoignent des organisations qui s'investissent, qui s'engagent, qui cotisent, qui adhèrent à la Croix-Rouge, à Amnesty, à toutes les organisations qui, elles, font aussi le travail. Il ne faut pas se dégager de sa propre responsabilité, mais on est tous humains et on a notre rôle à jouer dessus. Et Élise, tu voulais compléter ?
Oui, je voulais juste demander à Caroline, là, on a vu les limites du droit international humanitaire. Pensez-vous que ça puisse... être dépassé ces limites? Est-ce que le droit international humanitaire peut évoluer? Et comment? Et quels sont les moyens de le faire avancer, hein?
Alors, je pense que le droit international humanitaire est un droit qui est toujours évolutif parce qu'il va devoir tenir compte des nouvelles technologies, de l'émergence aussi de nouvelles armes sur l'intelligence artificielle, de déplacement aussi de conflits armés dans l'espace extra-atmosphérique. Donc les juristes travaillent déjà pour encadrer effectivement l'arrivée de ces nouvelles armes. Mais en même temps, et vous l'avez dit, il y a quelque chose qui est préoccupant, c'est qu'on a quand même un cadre juridique avec des conventions, des traités, et une remise en question de ces traités alors que les États se sont engagés. Et va se tenir en 2024 la conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui réunit l'ensemble des États qui ont signé les conventions de Genève de 1949. Et l'une des résolutions est quand même de rappeler que ces conventions de Genève de 1949 sont universelles. Donc ça donne le ton pour la suite, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une phase où on rappelle que ce qui a été convenu et qu'on en pense acquis depuis 1949 est quand même remis en question. Donc ça, c'est particulièrement préoccupant pour la suite. Et notamment d'ouvrir des nouvelles voies, de mécanismes, de leviers, de sanctions, de responsabilités, pour qu'on puisse dire à chaque violation du droit international humanitaire, des États, des personnes doivent être jugées. Mais pas dans 10 ans, 20 ans, 30 ans ou jamais. Ça doit se faire plus rapidement avec des leviers d'action plus modernes. Alors, il faut rappeler qu'on a quand même deux juridictions, la Cour internationale de justice, qui juge des États, mais effectivement, qui a peu de marge de manœuvre ensuite concrètement pour sanctionner ces États, donc qui va rendre des décisions, mais qui ne vont pas être suivies des faits. Et on a la Cour pénale internationale qui juge des personnes qui vont pas respecter le droit international humanitaire. Donc là, on parle de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Mais là, encore une fois, avec une limite, puisque certains États n'ont pas accepté le statut de cette Cour.
Oui, il y a forcément toujours des limites, mais il ne faut pas que ça nous décourage de continuer à se battre pour améliorer les choses. Il y a quand même, soyons optimistes dans notre combat pour la paix, en disant que tout ce qui, moi je suis, j'ai bientôt 60 ans, je suis étonné des progrès qui ont été faits par toute cette génération de juristes dans les organisations pour travailler la question du droit international, du droit international humanitaire notamment. Et on n'entendait pas parler avant de la CPI, la Cour pénale internationale qui juge les personnes, comme tu viens de le dire, et encore moins, moi j'avais jamais, rarement, pas entendu parler de la Cour internationale de justice, sauf dernièrement parce que l'Afrique du Sud met Israël et la Cour internationale de justice parle de risques génocidaires en ce moment sur Gaza, et là on en parle un peu, et c'est vrai que quand on en parle, et ben ça fait aussi avancer les différents combats, ça fait avancer la légitimité, ça fait avancer il faut pas que l'humanité notamment dans nos pays riche, éduqué, on s'endorme et qu'on pense qu'on peut rien faire, que c'est comme ça et que non, on ne doit pas accepter.
Alors Stéphane, c'est peut-être parce que je suis un peu plus vieille que toi que je suis moins optimiste, parce que la Cour internationale de justice, oui, elle a quand même donc pris une décision contre Israël qui n'est pas appliquée. Israël a dit on n'applique pas. Et voilà.
Ouais, mais après il faut.
Voilà, mais qui oui. Quels moyens on a pour que les décisions de cette Cour soient appliquées? Donc moi, je suis moins optimiste.
Celle qu'on va se donner. Moi, je suis optimiste dans le. Il faut rester dans le combat pour la paix. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le seul combat qui vaille, selon Albert Camus. C'est important. Et moi, quand je vois des organisations qui crée des choses, qui crée déjà qui crée de l'information, qui crée que les gens soient informés, que soient un peu plus au courant, et qu'on se dise, j'ai pas envie de résignation, et c'est vrai que le combat des juristes, que ça soit à Amnesty, à la Croix-Rouge, et il est intéressant. Il y a des campagnes aussi qui sont menées qui peuvent aussi faire réagir les gens. Tout à l'heure je disais qu'à Nancy, on a un collectif qui s'appelle le collectif de Meurthe-et-Moselle pour le désarmement nucléaire, qui crée aussi des petites actions. À notre niveau, on en a déjà parlé à cette antenne, mais en Meurthe-et-Moselle, il y a trois municipalités qui sont déclarées favorables au traité d'interdiction des armes nucléaires. Et en France, il y a à peu près 90 communes, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on passe à 200, à 300, à 400. Et après, c'est ça qui peut faire réagir les gouvernements, les associations. Elles font aussi du travail alors vous, ça s'appelle des plaidoyers, hein, c'est des plaidoyers au niveau des parlementaires, et c'est aussi les gens qui décident qu'il faut convaincre de s'opposer à l'arme nucléaire. Déjà d'aller chercher, on avait fait une émission il y a un moment c'est Émeric Halluin.
Sur
les armes. Et c'est vrai que tout ce travail-là, il faut le faire. Le monde est ce qu'on en fait nous. Et on a à se regarder dans une glace et on a à voir quel monde on laisse aux générations futures. Et c'est vrai que si on pouvait, on a pu faire des traités sur les armes chimiques, sur les armes biologiques. Eh ben, même si on l'imagine pas aujourd'hui, même si on se dit, jamais, ils vont dire qu'on arrête totalement les armes nucléaires. Les choses arrivent forcément à un moment ou à un autre. Après, les choses pires aussi peuvent arriver. Je suis d'accord avec toi. Mais le combat pour la paix est le seul combat qui vaille.
Mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est un peu David contre Goliath. Hein.
Oui, ben oui.
Tu vois le nombre de lobbyistes qu'il y a.
Eh ben,
Bruxelles par rapport au nombre.
Faire des conférences comme celle qui a eu lieu à Nancy le 20 février dernier, eh ben il faut multiplier ça. Moi je pense que Caroline Brandao elle fait des tours de France. Elle va sur ces questions-là pour aller informer les gens. Elle est avec nous à RCN. Élise.
Oui, je crois que Caroline, vous avez aussi un programme à la Croix-Rouge pour sensibiliser. les jeunes adultes
et les enfants, j'ai entendu.
Des armes nucléaires.
Et les enfants aussi, j'ai entendu.
Voilà, basé sur la musique, le rock, je crois que j'ai entendu parler quelque chose comme ça.
Oui, alors effectivement, on essaye de fédérer justement le grand public et également la jeunesse autour de projets originaux pour parler de la question des conséquences humanitaires de l'usage de l'arme nucléaire. Et on le fait auprès des jeunes, donc ça commence en CM1, CM2, au collège, au lycée, il y a des options Croix-Rouge qui sont déployées, qui permettent déjà de parler du droit international humanitaire. Donc...
En face, il faut dire aussi qu'il y a le service social universel et le travail de l'armée dans l'autre sens.
Mmh, tout à fait.
donc il faut soutenir le travail de la Croix-Rouge, Amnesty aussi, qui rentre aussi dans les collèges, les lycées, mais il y a du boulot.
Donc il y a des activités jeunesse hein, qui sont menées par plusieurs organisations qui vont quand même toutes dans le même sens, c'est porter quand même des valeurs humanitaires, un engagement aussi citoyen des jeunes. Et puis un autre projet effectivement autour de la musique, voilà, on en revient à l'extrait qu'on a passé dès le Nolagué, mais il y en a beaucoup. Stéphane, je pense que vous pensiez à d'autres chansons, d'autres titres qui parlent de l'arme nucléaire et qui dénoncent déjà les conséquences catastrophiques de cette arme.
Même si souvent c'est de façon légère et joyeuse, on a l'impression que moi je connaissais dans les années 80 Orchestral Man of in the Dark, mais c'est vrai que j'ai appris très tardivement que c'était une chanson contre les armes nucléaires. Il y a aussi Sting qui avait fait une chanson qui s'appelait Russian. J'espère que les Russes ont aussi des enfants, ça disait, par rapport au moment de tension nucléaire. Et oui, il faut redécouvrir ces musiques-là. On s'y emploie aussi à Parole de Paix. On a passé plusieurs fois la Java des bombes atomiques de Boris Vian, qui est là fait sur un modèle un peu comique. Voilà, il faut que cette culture, la culture de la paix, la culture de l'opposition à l'arme atomique, comme tu dis, Caroline, ça peut aussi passer par la musique, la chanson, les...
Toutes les armes, d'ailleurs.
Et toutes les armes. Oui, il y a un groupe aussi comme Coldplay qui est fortement engagé sur les questions de paix, de...
Oui, puis on peut citer peut-être un groupe français qui va parler à nos auditeurs, c'est Téléphone avec la bombe humaine. Là, il y a des références aux conséquences de l'usage de l'arme nucléaire.
Oui, tout à fait. Je vois que le temps tourne. Est-ce qu'on a un dernier petit point les uns les autres veulent préciser ou veulent... En tout cas, on ne peut que engager les auditeurs à faire connaître cette émission. Elle est en podcast sur le site rcn-radio.org dans les podcasts, dans la partie magazine. Elle est aussi sur la chaîne YouTube de Radio Carib Nancy. Donc les gens qui ont loupé le début de l'émission peuvent le réécouter en podcast. Dès la mi-février, fin février. Et en tout cas, moi, je remercie vraiment beaucoup. Caroline Brandao, on remercie Caroline Brandao de sa venue à Nancy. C'était une découverte et des propos très intéressants qu'il faut maintenant continuer à porter, à poursuivre. Qu'est-ce que les uns les autres, Marie-Jo?
Moi, je pense que nous tous dans les associations pour les droits humains, on a des périodes de découragement de voir que ça marche pas comme on veut, mais je crois qu'il faut s'y tenir, que si nous on lâche, on est là pour se battre.
Ouais.
Et
pacifiquement.
Se battre pour nos valeurs.
Ouais,
ouais. Voilà.
Et là, donc on peut qu'engager les gens.
Moi, je suis découragée, mais je me dis si.
Il n'y a que nous. Pour le faire, il faut le faire.
Il n'y a que nous pour essayer d'entraîner tout le monde à s'opposer à toutes ces valeurs de mort, de guerre, de...
Élise, vas-y.
Oui, alors justement, le 20 février, la conférence, je pense que c'était un moment fort d'information. Et ce qui était intéressant aussi, c'était la rencontre d'humanitaires et de militants plus politiques, parce que je pense qu'on a tous à se fédérer contre ce type d'armes et toutes les armes en général.
Et donc rejoindre les différentes associations sur Nancy, on peut agir localement. On avait dit à la fin de la conférence que une réunion du collectif pour le désarmement nucléaire avait lieu le 19 mars. 19 mars. Donc, oui. À 18h dans les locaux du CLID. Pour plus d'informations, on peut écrire à mocnancy@ouvaton.org. L'adresse du MAN, tu la connais par cœur?
Non, enfin, je ne la connais pas par cœur.
Là, l'adresse d'Amnancy, tu la connais par cœur?
Oui. Non. Si, je vais y arriver. Je vais y arriver. nancy@amnestyfrance.fr.
Et tu connais par cœur
Non, il y a LDH dedans.
Il y a LDH, d'accord. LDH, on peut nous retrouver. Et sinon, il y a des pages Facebook, il y a un certain nombre de choses. Informez-vous et engagez-vous, qui disait. Merci à tous. Merci à Caroline. Et puis, à une prochaine émission.
Merci. À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Merci.
Au revoir.